Il est 19h sur Bac FM 106.1. Vous écoutez l'invité du soir, l'émission où on parle de façon chill et relax de sujets sur tout un tas de trucs passionnants. Aujourd'hui, émission un peu particulière, chers auditeurs, car j'ai la chance de recevoir un commentateur, un influenceur sur un sport que j'apprécie tout particulièrement, le catch. Salut monsieur Ringsider.
Bonsoir Maxime. Comment ça va?
Ben ça va et toi?
Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être parmi vous.
Tu es commentateur pour plusieurs promotions de catch partout en France et tu es également présent sur quelques réseaux sociaux, Insta, TikTok notamment. Pour la complète transparence de nos échanges, je précise que nous sommes également collègues pour la belle structure Immortal Pro Wrestling, mais ça, on y reviendra. Eh ben, Ringsider, bienvenue sur Bac FM. Première question, peut-être un peu de présentation, ça veut dire quoi être commentateur de catch?
Alors, c'est une bonne question. Être commentateur de catch, c'est avant tout être passionné. Voilà, je dirais que ça commence par là. Plus sérieusement, alors en fait, mon rôle à moi, c'est de commenter l'action qu'on peut retrouver, donc soit à la télé, soit en rediffusion sur des plateformes telles que Twitch ou YouTube. Et finalement, le rôle du commentateur, c'est d'amener le spectateur dans l'action, lui permettre de suivre ce qui se passe sur le ring, en dehors du ring, et de pouvoir lui faire vivre les émotions au travers de notre voix, finalement.
Là, je révèle un petit peu un secret de polichinelle, hein, mais le catch est un sport scénarisé et non pas truqué, fake, comme on peut l'entendre à droite, à gauche. Toi, en tant que commentateur, comment tu perçois ça? Est-ce que au fond, tu fais aussi partie de cette trame scénaristique ou est-ce que tu es hors de ça?
Alors non, je pense que le commentateur, il a effectivement un rôle à jouer important dans cette scénarisation, puisque... Si la personne qui commente l'action ne croit pas en ce qu'elle voit, ça va être compliqué de faire croire aux spectateurs que c'est réel, que c'est vrai, et qu'il faut s'investir dans l'histoire qu'on nous raconte, etc. Donc effectivement, je pense que le commentateur, il a un rôle aussi important à jouer que les acteurs sur le ring, tout à fait.
Est-ce que t'es toi-même quand tu commentes, ou est-ce que à la manière de grands catcheurs qu'on connaît tous, tu incarnes un rôle quelque part?
Alors je dirais que j'ai un rôle qui puise sa source dans la personne que je suis au quotidien. Je vais juste essayer d'exagérer pas mal de mes traits pour que ça ressorte mieux après, j'allais dire à l'écran, à l'oreille, etc. Donc, mais je joue pas spécialement un rôle, on va dire juste que je me transcende un peu, ce que je me permettrais pas dans un cadre un peu plus politiquement correct, on va dire que là ça ressort, mais sinon j'ai pas de réel personnage, voilà. Je m'inspire beaucoup de mon caractère de tous les jours.
Il y a des grands catcheurs hein, qu'on connaît tous, ou des moins du nom qui reviennent, hein, Stone Cold Steve Austin, John Cena, et eux disent qu'ils prennent des vrais traits de leur personnalité et qu'ils poussent le curseur à 100. C'est un peu ce que tu fais finalement.
C'est ça exactement, et puis ça me fait plaisir que tu cites notamment Stone Cold Steve Austin, puisque c'est une des figures qui a façonné ma vision du catch, et... Avec Shawn Michaels, entre autres, enfin, voilà, que des noms de légende. Donc oui, effectivement, c'est plus dans cet état d'esprit-là que je suis. Après, ça montre aussi qu'il y a mille et une façons d'aborder le catch, et que peu importe la manière qu'on a envie de procéder, eh bien, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est formidable aussi.
Ton pseudo, c'est Monsieur Ringsider. Je me demandais, ça venait d'où? C'est quoi l'origine derrière ce nom?
Alors... Le monsieur, c'est tout simple, c'est en hommage à Monsieur Hawkin, qui est un autre influenceur catch très reconnu dans la communauté en France, qui m'a beaucoup inspiré, avec qui j'ai de bons rapports, et puis je suis content d'avoir eu la chance de le rencontrer et de travailler avec lui. Et Ringsider, c'est tout simplement le terme ringside, c'est ce qui désigne la partie qui se situe au bord du ring, tout autour du ring. Et Ringsider, parce que j'ai au cœur d'être au plus proche de l'action, voilà, tout simplement.
Question un petit peu perso, est-ce que tu te souviens de ton tout premier souvenir de catch, le premier match, le premier catcher, le premier wow?
Oui, tout à fait. Il y a deux souvenirs, le premier c'est en 2005, c'était pour un pay-per-view, donc pay-per-view c'est un show qui est diffusé à la télévision aux États-Unis pour lequel on doit payer. Pour pouvoir y accéder et le regarder. Donc nous, à l'époque, en France, on n'avait pas accès à ces chaînes-là, donc il fallait attendre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois pour avoir les images. Et donc 2005, je tombe sur un vieux pay-per-view de la WWE, et à l'époque, c'était JBL contre le Big Show. Voilà, ça parlera peut-être aux initiés, qui se battaient à l'intérieur d'une cage. Moi, du haut de mes 9-10 ans, je regarde ça, je me dis « waouh, c'est exceptionnel ». Et deuxième grand souvenir, c'est ce qui m'a définitivement fait tomber dans le catch, c'est le combat de Shawn Michaels à WrestleMania 22 face à son boss de l'époque, le patron de la fédération, Vince McMahon. Voilà, c'était exceptionnel. J'ai vu un employé fracasser son patron au milieu d'un ring.
Un peu le rêve de tout le salariat en France.
C'est ça, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet univers ? Donc non, voilà, c'est mes deux vrais premiers souvenirs que j'ai avec le catch en général.
Bac FM, c'est une radio à destination des jeunes. Il y a des auditeurs qui nous écoutent qui auront à passer un oral à la fin de l'année, le bac, hein, pour dire le mot interdit. Toi, la première fois que tu as pris un micro en public, est-ce que tu étais stressé ? Comment tu gères la prise de parole en public ? C'est intéressant.
Effectivement, oui. La toute première fois que j'ai dû m'exprimer devant un public, ça n'a pas été évident. Je pense à ce que j'ai dû faire du côté de la HCW, la Hellfire Championship Wrestling, que j'en profite pour saluer d'ailleurs, qui est une structure qui se situe dans le sud-ouest, à côté de Toulouse, à Cahors. Et j'ai dû animer donc le show, le pré-show, si vous voulez, d'une trentaine de minutes avec plusieurs invités, devant presque 700 personnes. Donc c'était plutôt impressionnant. Après, étant donné que le rôle de commentateur sportif et de commentateur de catch, plus précisément, nous amène à devoir nous exprimer au micro toutes les semaines, il y a une aisance qui s'est formée à partir de là. Mais c'est vrai que c'est toujours différent de commenter derrière son écran et de prendre la parole en face d'un public d'autant de personnes. Mais je pense que la pression, elle se gère assez bien. Au final, elle se transforme en énergie positive. Donc là-dessus, ça va.
Et justement, comment tu prépares un show ? Est-ce que tu te fais des petites fiches, hein, très scolaires ? Est-ce que tu mémorises des noms de prises ? Est-ce que tu improvises ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a une grosse part d'improvisation, effectivement. Je pense que ça fait partie aussi des qualités requises pour exercer cette fonction, ce métier. Il faut savoir rebondir, puisque tu l'as dit très justement, un show de catch, c'est scénarisé, mais on fait face aussi à l'imprévu. Donc le commentateur doit être aussi capable de gérer ces imprévus-là. Maintenant, il y a effectivement un gros travail de préparation en amont. Généralement, on a quand même connaissance de la carte, des acteurs et des catcheuses qui seront présents. Pour les profils et les noms qu'on connaît un peu moins, ben on va aller se renseigner sur leur fiche, hein, tout simplement, leur expérience, leur parcours, leur carrière, les titres qu'ils ont remportés. Il y a vraiment un travail de recherche en amont pour pouvoir après amener toute son expérience et donner aussi nos propres expériences à nous. Donc non, il y a une part d'improvisation, mais il y a aussi une grosse part de recherche et de travail en amont, effectivement. Et je pense aussi qu'il faut aussi être passionné, c'est ce que je disais au début, parce qu'il faut s'informer en permanence. Le catch, il évolue énormément, surtout sur la scène française. Donc il faut ce travail de recherche, il n'est pas effectué simplement une heure ou un jour avant les shows, il faut le faire en permanence pour rester informé, tout simplement.
Toi, tu fais les deux types de commentaires, hein. Tu commentes de façon enregistrée, si je puis dire, de façon différée, et tu commentes aussi en live ?
C'est ça, tout à fait.
C'est quoi le plus dur quand t'es en live ? Est-ce que c'est suivre l'action, garder l'énergie tout le long ? Je sais pas, trouver les bons mots peut-être ?
Alors, je dirais pas qu'il y ait plus de difficultés à ce niveau-là. C'est surtout au niveau de l'environnement dans lequel on se situe. Généralement, quand on commente live, on est au bord du ring, on est au bord terrain. Donc, on est peut-être plus vulnérable à des bruits extérieurs, etc. Il faut vraiment rester concentré au cœur de l'action. À l'inverse, c'est peut-être plus simple lorsqu'on commente au bord du ring de s'investir justement dans l'action parce qu'on est au cœur justement de l'ambiance. Donc ça nous pousse parfois à nous transcender. Mais au-delà de ça, non, il y a aucun des deux que je préfère d'ailleurs, et je pense que les deux sont vraiment ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients.
Je voulais te demander, c'est quoi ton moment préféré quand tu commentes ? Est-ce que c'est les entrées ? Les entrées sont très importantes au catch. On peut citer celle mythique de l'Undertaker, mais il y en a d'autres qui vont devenir cultes, Jeff Hardy ou Bobby Roode, pour ne citer qu'eux. Est-ce que c'est les retournements de situation, le public qui explose ? On appelle ça des pops dans le jargon ?
Tout à fait. Alors moi, à titre personnel, ce qui me plaît le plus dans le rôle de commentateur, c'est de pouvoir... pouvoir avoir le droit d'embêter pendant 3 heures mon collègue, n'est-ce pas, mon cher Maxime ? Voilà.
on en reparlera à la fin du show sur du spectacle sur Immortal Pro Wrestling. Effectivement, ça risque d'être sportif.
Mais au-delà de ça, non, plus sérieusement, effectivement, alors tu l'as dit, les entrées, c'est toujours un moment grandiose, un moment de spectacle. Mais c'est pas finalement le moment que je préfère. Parce que souvent aussi, lors des entrées des catcheurs, il y a un temps où nous, on laisse un peu de silence, justement, pour que le spectateur puisse s'imprégner de l'aura du catcheur, de l'entrée, etc. Mais alors, ce qui me plaît énormément, c'est sur les near fall, comme on les appelle dans le jargon, c'est-à-dire le moment où le catcheur relève l'épaule juste avant le compte de 3 de l'arbitre. Et généralement, la foule explose et c'est là que ça nous permet d'exploser aussi. Les retournements de situation aussi, tu l'as dit. Moi, j'ai un affect particulier pour les trahisons. Voilà. Lorsqu'il y a une trahison qui se déroule sous mes yeux, je suis pris d'une émotion, je suis obligé de m'investir et j'adore ça.
les plus anciens qui nous écoutent, qui suivaient le catch sur Canal+ à l'époque, se souviendront peut-être de Shawn Michaels et de Marty Jannetty.
Très grand moment, Shawn Michaels qui envoie Marty traverser la vitre du barbershop de Brutus Beefcake. Non, oui, un grand, grand moment, si je dis pas de bêtises, fin des années 80 ou début 90.
Ouais, c'est ça. Il y a différents styles de commentaires. Il y a le côté très sport, que les gens peut-être situent un peu plus, ce qu'on appelle du play-by-play. Il y a aussi le côté très humour. Je voulais citer les cultissimes maintenant, Christophe Ajus, Philippe Chéreau, ou encore nos amis Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo de chez AEW. Toi, comment tu situerais ton style? Comment tu le définirais, le tien?
Alors, je pense être un peu plus loin du play-by-play que du coloris commentateur, donc celui qui va amener justement, tu le disais, cette touche d'humour, de ce côté un peu décalé finalement, parce que il en faut, hein, ça crée un beau mélange. On a le rôle du play-by-play qui reste un peu plus sérieux dans l'action, tu l'as dit, commentaire un peu plus sportif. Moi, je me situe plus de l'autre côté, je dirais. Alors, tu as cité effectivement Christophe Ajus, Philippe Chéreau, Norbert Feuillant. C'est des noms qui pour moi m'ont inspiré énormément. Norbert, que j'aurai la chance d'accueillir dans mon émission sur Twitch également prochainement. Donc je vais en être très heureux, mais effectivement non, c'est des figures desquelles on est obligé de s'inspirer parce qu'elles ont bercé notre enfance pendant des années et des années. Mais je suis un peu plus dans le côté fou du commentaire que dans le côté sportif. Même si ça m'empêche pas du tout d'avoir un côté sérieux et de parfois plonger totalement dans le côté sportif aussi. Hein.
Je le disais tout à l'heure, tu commentes plusieurs promotions de catch différentes. Est-ce que tu commandes toujours de la même façon les différentes promotions ou est-ce que selon ce qu'on appelle le produit proposé par la promotion, tu adaptes ton style?
Oui, on adapte son style à la promotion, au produit, à la qualité de ce dernier aussi forcément. Et je dirais également, on s'adapte aux collègues qu'on a à côté de nous. Voilà, je commande pas toujours avec la même personne, donc en fonction de mon collègue de commentaire, on adapte ça aussi. Mais effectivement, c'est compliqué, je dirais, de conserver. On conserve effectivement une ligne directrice qui est la même. Je dirais, c'est notre touche personnelle, notre personnalité. Mais je pense que ce serait compliqué de vraiment faire du copier-coller entre chaque structure. Et ce serait même dommage.
Quand tu commentes, tu veux que les gens ressentent quoi? Est-ce que l'intensité des matchs, l'histoire, ou juste passer un bon moment finalement, c'est aussi ça le catch? C'est ça le catch pour citer Sturie.
Tout à fait. J'essaye de pouvoir apporter le maximum au plus grand nombre. Donc j'essaye de diversifier un peu. Généralement, un show, ça dure entre 2 heures et 3 heures. Je vais, au cours de ces 2-3 heures, essayer d'amener un peu tout ce que tu as dit, pour que ça puisse convenir aussi bien aux personnes qui sont des initiés fans depuis 10 ans et qui recherchent vraiment ce côté technique, qui veulent apprendre des choses, qui ont déjà une connaissance approfondie du catch et qui veulent quand même ressortir de là en ayant appris quelque chose. Et à la fois, il faut aussi parfois savoir se déconnecter, partir un peu dans n'importe où, pour amuser et attirer ce spectateur qui lui connaît pas du tout le catch et qui sera attiré et intéressé par autre chose que par l'histoire ou par le côté technique, parce que lui il est pas encore dans ce milieu là donc voilà. Mais c'est pas évident, mais c'est aussi ce qui fait, je pense, la beauté de cette discipline.
Moi, je voulais aborder avec toi la question du catch français en 2026. Le catch français, tu sais, ça a toujours été un débat parfois compliqué. Ça a été difficile à certains moments. Là, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine explosion avec des grandes, grandes stars et des gens remplis de talent. On va pas tous les citer, hein, mais Kuro, Thiago Montero, Big Morgan Shade, hein, pour faire un petit peu d'auto-promo.
Toi, comment tu le Kyle Loxton, Mathieu Navarro.
et le grand car crash Gonzo, j'en profite. Toi, comment tu le décrirais, le catch français en 2026?
Alors, je le décrirais de manière formidable. Le catch français, c'est vrai qu'il vit un second souffle qui est génial, qui est également en partie dû au fait qu'il y a une nouvelle vague de créateurs de contenu sur les réseaux, dont je fais partie, c'était en 2024, et qui a amené, je dirais, ce nouveau souffle. En fait, tout est parti du regain de popularité pour le catch américain en France. Du coup, ce qui a amené les anciens fans de catch qui avaient quitté un peu le navire à revenir, ça a également permis à une nouvelle génération de fans d'émerger. Et derrière, et bien le catch français s'est servi de ce regain d'intérêt pour tout simplement montrer qu'il existe en France depuis de nombreuses années et qui se développe de plus en plus. Et 2024-2025, il y a eu donc ce regain d'intérêt. Et je pense que là, 2026, le catch français, il est en train de récolter un peu le fruit de son travail. Et il commence à avoir vraiment de plus en plus de visibilité, d'être vraiment pris au sérieux, même à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, au Japon. Voilà, il y a de plus en plus de collaborations. Tu as cité des grands noms. On a également des représentants qui sont soit déjà à la WWE ou aux portes de ces grosses structures, même à EW, etc. Il y a Elio Loeffler, je pense à Ricky Sosa, tu l'as dit, Mr. Hype Kuro, qui devrait pas tarder non plus à rejoindre les États-Unis. Mike DiVecchio également pour la Belgique. Enfin voilà, de manière générale, le catch français et francophone est en pleine expansion. Moi, je suis très, très heureux de ça, parce que c'est un de mes leitmotivs au quotidien, c'est faire grandir le catch français et lui permettre d'obtenir la reconnaissance qu'il mérite, qu'il soit pris au sérieux au même titre que la musique, que le jeu vidéo, et que ça s'inscrive vraiment dans la culture en France. Et ça en prend la direction, donc non, c'est génial. Allez voir le catch français et soutenez vos structures autour de vous.
Ce qui est assez dingue, c'est qu'au moment où on enregistre cette émission, on est le jeudi 26 février, et Elio Loeffler, anciennement Aigle Blanc, vient de remporter un championnat à la WWE, un titre, hein, si vous voulez.
Tout à fait.
Et c'est le premier Français à le faire depuis le très grand, et c'est le cas de le dire, André le Géant.
Ah, c'est ça qui est fou, hein, André le Géant qui a pris part à WrestleMania 3 face à Hulk Hogan, on s'en souvient, quel match de légende. Et presque 30 ou 40 ans après, on a de nouveau un Français qui remporte une ceinture à la WWE. C'est formidable. J'ai suivi le match en direct. Il était un peu plus de 3 heures du matin en France. Et c'était formidable. J'étais très heureux pour lui. Elio Loeffler, enseignement, Aigle Blanc, tu l'as dit. Donc non, c'est génial. Et ça va apporter aussi beaucoup de bien pour le catch français. Parce qu'avoir un représentant français à la WWE, ça va faire montrer aux gens qu'il y a du talent. Il y a du talent, puisqu'il ne faut pas oublier que Elio Loeffler, il y a encore quelques semaines, il catchait en France dans des gymnases de 500, 800 ou 1000 personnes. Donc c'est ça qui est fou aussi, quoi.
Pour quelqu'un qui connaît seulement la WWE, justement, ce serait quoi la porte d'entrée parfaite pour découvrir le catch français, hormis s'abonner à Immortal Pro Wrestling sur tous les réseaux sociaux possibles?
Mais je dirais s'abonner à Mr. Insider. Alors, voilà.
Sur tous les réseaux sociaux possibles.
Sur tous les réseaux possibles. J'essaye vraiment de parler au maximum de catch, de toutes les structures. Encore la semaine dernière sur Twitch, j'en ai évoqué pas moins de 7, que ce soit en région parisienne, dans le sud-est, sud-ouest, même dans l'est, etc. En Bretagne, avec la Rix notamment. Enfin voilà. Suivez Mr. Insider et plus sérieusement, je pense que la porte d'entrée, c'est tout simplement de se renseigner. Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de structures qui émergent, qui voient le jour ou qui renaissent parce que c'était d'anciens projets qui étaient un peu endormis, etc. Et il y a forcément, du coup, je dirais, dans les 50 ou 100 kilomètres autour de vous, une structure. Alors après, effectivement, c'est peut-être pas évident pour les plus jeunes qui nous écoutent de se déplacer s'ils n'ont pas encore le permis, si les transports en commun ne desservent pas bien certains lieux, etc. Mais renseignez-vous parce qu'il y a forcément une structure autour de vous qui a besoin de visibilité, qui a besoin qu'on la soutienne. Et je dirais que c'est la meilleure porte d'entrée pour entrer dans le milieu, parce que c'est proche de chez nous, donc on peut y accéder plus facilement. Les prix sont attractifs, sont accessibles, et ça nous permet de rencontrer des catcheurs qui viennent de la France entière. parce que c'est ça qui est formidable aussi, nos talents, ils catchent vraiment partout en France. Il y a très peu de catcheurs qui restent cantonnés à un seul endroit, et ça c'est formidable, c'est formidable.
Question un peu nerd, comme dirait Carl Anderson. Si demain je te donne des pouvoirs magiques sur un dream match à commenter, tu choisis qui contre qui ?
Oh là, ça c'est une excellente question.
Ouais, j'aurais peut-être pu te la poser, de la prévenir avant celle-là.
Je dirais peut-être Shawn Michaels face à Daniel Bryan.
Bryan Danielson. Ouais.
Ou alors un Kyle Oxton contre Carmelo Hayes. Ouais. Voilà. Pour pourquoi pas, ça me tente très bien. Et puis après, pour citer un combat féminin quand même, j'allais dire j'ai eu Shayna Baszler, mais on a eu la chance de la voir déjà, donc je dirais un petit Chelsea Green Rhea Ripley en main event de WrestleMania pour le
le gars a pris ses deux catcheuses préférées
féminin poids lourd, voilà.
Dernière question, si tu devais donner un conseil à un jeune qui nous écoute, un conseil pour quelqu'un qui aimerait travailler dans les commentaires sportifs et qui plus est celui du merveilleux monde du catch, ça serait quoi ?
Alors ce serait de croire en soi, parce que peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour ma part j'ai eu la chance, d'être entouré de personnes qui croyaient en moi, mais j'ai aussi malheureusement dû faire face à pas mal de personnes qui croyaient pas du tout au projet, parce que le catch malheureusement souffre encore de certains stéréotypes qui disparaissent un peu à peu de jour en jour, donc c'est formidable, mais bon, il reste encore présent parfois, et il faudra s'armer de patience, parce que du coup on entendra souvent que ça sert à rien, que c'est pas possible, etc., alors qu'au final non, je dirais qu'il faut s'armer de patience, de courage. Et il faut croire en soi, parce que de la place dans le catch, il y en a pour tout le monde. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ça qui est formidable. C'est un milieu qui est ultra inclusif. Peu importe le rôle, le caractère, la manière qu'on souhaite de pouvoir prendre part à ce milieu-là, on aura sa place. Il suffit juste de faire l'effort de s'intéresser, de pousser la porte. Parce que les portes, elles sont pas fermées à clé. Comme je le disais, il y a un tas de structures qui ont besoin de visibilité, de soutien. Et elle serait ravie d'entendre et de voir qu'il y a des gens qui toquent à leur porte pour dire « Bonjour, j'aimerais m'essayer au rôle de commentateur, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ?» Donc il suffit d'essayer, faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire ne pas avoir peur de demander des conseils également à des personnes plus expérimentées. Voilà, un petit message sur Instagram, ça coûte rien. Et croire en soi. Après, effectivement, il y a un côté technique à avoir, mais ça se travaille par la suite, donc voilà. Tout est possible.
Fight for your dreams and your dreams will fight for you, disait Bryan Danielson à son retour de blessure.
Exactement, je pourrais pas dire mieux, tout à fait.
Merci infiniment Ringsider d'avoir répondu à mes questions.
Et merci à toi Maxime de m'avoir invité, c'est un énorme plaisir. Merci également à toute l'équipe de Back FM.
Petit moment auto-promo, on peut te retrouver où ?
Alors on me retrouve le plus souvent sur Instagram, YouTube et Twitch, donc Mr Ringsider. Vous tapez Mr Ringsider, vous me trouverez forcément. Et j'ai également une page TikTok. Et alors, en ce qui concerne mes activités avec le catch français, je vais me permettre de citer un peu les structures avec lesquelles je collabore régulièrement. Donc, il y a évidemment Immortal Wrestling Pro, voilà, qui organise très bientôt le show Immortal Origins. Je te laisserai en parler juste à la fin. Je peux citer également la Lion Wrestling Association, une structure qui est située du côté de Lyon. Il y a également la FRPW en Gironde, la Generation Wrestling, le Catch Club Cognacé du côté de Cognac. Voilà, la Hellfire Championship Wrestling, je l'ai cité tout à l'heure, donc je les salue toutes et tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch, on est en live tous les dimanches à partir de 21h. C'est la régalade, et puis deux fois par mois avec des invités exceptionnels, des catcheurs, des arbitres, des commentateurs, des anciennes stars WWE. On essaye de donner également un temps de parole à tout le monde, donc voilà.
Et effectivement, on aura la chance, toi et moi, de commenter cette belle structure de Immortal Wrestling Pro, oui. Dont son premier show Origin aura lieu au moment de cette émission bientôt, là, c'est aujourd'hui ou demain. Hein.
Exactement, c'est demain, mais là, je vais prendre la route, je vais partir direction du coup Pont-Saint-Esprit, et me préparer tranquillement pour ce show qui s'annonce exceptionnel, hein, des anciennes stars de la WWE, des stars américaines qui seront présentes, tu l'as dit, Big Morgan Shade. Je pense à Gareth Logan, Julius Trajan,
Saitovic,
Kyle Oxton, enfin The Pitbull Omega. Voilà. Si vous souhaitez vous initier et découvrir non seulement la scène française, mais également la scène indépendante internationale avec des catcheurs américains. Rendez-vous du côté de Pont-Saint-Esprit pour le show Immortal Origins.
Et donc au moment où vous écoutez cette émission, le show sera déjà passé. En revanche, il y aura sans doute des extraits hein, sur Internet, sur YouTube, hein, tapez Immortal Wrestling Pro, vous allez tomber dessus direct. Et bien sûr, de nombreuses dates arrivent, donc abonnez-vous sur les pages Insta. Évidemment, on relira tout sur ces réseaux. Du côté de Back FM, on est sur Insta et Facebook, hein, c'est @BackFM tout simplement, là c'est pas compliqué. De mon côté, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, et tout de suite, c'est le retour de la musique métal sur Back FM, avec une musique qui va en rappeler des souvenirs aux gens qui ont joué au jeu SmackDown vs Raw dans les années 2000. Tout de suite, Well Enough Alone de Shovel.
Never come.